Moi, j'ai pas vu ce que Camille elle a partagé hier, finalement. J'ai juste vu, j'ai pas le temps de le lire. Hein.
Quoi ça?
Genre, how to learn command lines until you're dangerous, quelque chose de genre.
Oh, mais ça, c'est un vrai tutorial qui fait genre 60 pages de long, là.
Sérieux?
Ah, oh, oui, okay. C'est un vrai tutoriel. L'intro est quand même assez drôle à lire, puis si tu connais déjà les command lines, puis tu fais juste scroller, tu peux voir les images qu'il a mis, puis voir les jokes.
Ok.
Genre, quand il parle de la commande de concaténation qui s'appelle cat, dans sa version courte, ben il a mis des images de chat, tu fais comme...
Oh!
Et évidemment. Puis là, il dit, you should ask a cat how to cat.
Oh!
Allez.
Ok.
Essaye ça. T'es capable. Go.
Nous sommes le jeudi 18 mai. Vous écoutez On a juste une vie, épisode 159. Je suis Anne-Marie.
Et je suis Anne-Marie.
Ah. Oh. Faut pas que tu lises la feuille.
J'ai lu la feuille. Et je suis Narf.
Quel coquin Narf.
Eh oui. Là, on a beaucoup de jeux à parler, je pense, ce soir. Blob est pas là.
Blob est pas là, non. Il se pratique pour son tournoi de Magic.
Ouais.
J'espère qu'il va torcher.
Ah, je suis en train de péter la fille de route.
Vous êtes en train de péter quoi?
Rien. Ni vu, ni connu.
Bon,
t'as-tu fini d'écouter la chanson de Magic Heart?
Non, pas complet. Y avait-tu un truc spécial à la fin, quoi?
Ben là, t'attendais le bout avec Gyarados.
On va l'écouter tantôt. Mais je suis quand même étonné de voir que la chanson de Magikarp est vraiment officielle de Pokémon. Je m'attendais pas à ça.
Le Official Pokémon Channel sur YouTube a publié la chanson de Magikarp. Et c'est avec beaucoup de production value, hein, parce que c'est comme, les animations sont belles, la musique est catchy et bonne.
Ouais, ben oui.
Un peu.
Il y a du travail.
Mais, ouais. Et en fait, c'est une traduction, c'est ça que j'ai fouillé, là. C'est une traduction en anglaise qu'ils ont faite d'un vidéo qui était sur le Pokémon Channel officiel Japan.
Ok.
Et la chanson était en japonais. Puis la chanson s'appelle I Love. Ça parle de Magikarp.
Wow. Puis les gens l'ont tellement aimé qu'ils ont demandé la traduction, c'est ça?
Je sais pas. Ben, en fait, à force de chercher, j'ai compris qu'est-ce que c'était. C'est parce que Nintendo sont en... Ben, en fait, Pokémon Company sont en train de sortir un nouveau jeu mobile. Qui est présentement...
Ah ouais?
Qui a été soft-launché, genre, hier... en Italie. Fait que, on l'a pas encore vu. Je sais pas s'il est sorti aussi au Japon, mais la description en italien du App Store laisse sous-entendre que ce serait un jeu de... Ça s'appelle Magikarp Jump.
Ok. Oh là là.
Et contrairement à ce qu'on peut s'attendre, ce n'est pas un comment que t'appelles ça? Un jumping...
Ah, comme un Flappy Bird, genre?
Ouais, genre. Ce n'est pas ça. C'est plus comme tu collectionnes des Magikarp, puis en fait, ça ressemblerait à Neko Hatsume.
Oh!
Un Neko Hatsume officiel Pokémon avec des Magikarp. Que les autres Pokémon, ils viennent te visiter des fois.
Okay.
C'est comme... Je lisais la description, puis j'étais comme, est-ce que se pourrait-il que Nintendo a entendu mes prières pour un idle game de Pokémon?
Wow!
Ça faisait tellement longtemps qu'on en parlait sur le podcast, j'ai commencé à le faire.
C'est ça, tu le voulais tellement que t'as appris.
J'ai commencé à le faire, ben oui. Puis c'est drôle parce que, genre... Tu sais, j'avais commencé là, vraiment longtemps, j'avais commencé une version.
Ça fait longtemps que t'en parles.
Ben, je l'avais commencé, ça marchait, c'était compliqué parce que j'avais pas des bons plugins dans Construct. Puis là, je me suis trouvé des bons plugins pour faire de la gestion de données avec des JSON. Fait que là, ça allait bien. Fait que là, j'ai un peu recommencé pour y donner un autre twist. Mais ma deuxième version, c'est comme, je pourrais le rendre un peu plus comme Neko Hatsume. Puis là, Nintendo sont en train de le faire.
Et là, c'est je suis magique, comme, Neko Hatsume.
Ils ont copié mon idée. Mon idée. Ça se peut, hein? Ça se peut parce que It's Raining Cabbages, le Idle Pokémon est une extension de Cabbages. Puis Cabbages, il est open source sur GitHub. Puis, puis mon jeu de Idle Pokémon, il est aussi sur GitHub open source. Fait que c'est très possible. C'est très, très possible. C'est une possibilité non nulle que Nintendo a vu ça, puis là, c'est fait. Oh, man! Il faut copier cette idée. Et c'est certainement pas à cause du... C'est sûr qu'ils se sont pas dit, genre, Neko Hatsume puis Pokémon Go ont vraiment pogné. On devrait faire un jeu.
On les fait ensemble. Pokémon
Neko Hatsume. C'est sûrement pas à cause de ça. C'est sûrement parce qu'ils m'ont copié.
Mm-hmm.
Alors, je suis heureux qu'on ait ouvert le podcast avec la chanson de Magikarp que j'ai pogné dans la tête depuis 2 jours.
C'est clair, c'est tellement catchy.
Oh, mais là, le bout où ils finissent les couplets, là, puis que là, il y a comme un Magikarp qui résonne en background. Avec de la reverb, là, tu sais comme ça donne des frissons dans le dos, c'est bon. Évidemment, il y a rien que moi qui va trouver ça bon.
Mais parlant de jeux qui répondent à tes prières, là, j'ai entendu parler d'un jeu aujourd'hui, puis j'ai pas joué là, mais maudit que ça a l'air d'un jeu qu'on aimerait sûrement là. Juste en entendre parler, je me suis dit faut que Narfi joue à ça. Il est pas gratuit, il est 4$, ça s'appelle Space Plan. Mais tout dans un mot, parce que sinon j'ai de la misère à le trouver, là. Fait que space plan comme plan, tout d'un mot. Puis je vais te lire la description française sur le App Store francophone.
OK.
Space Plan propose une narration interactive fondée sur l'incompréhension totale de Jake Holland du livre Une brève histoire du temps par Stephen Hawking. Cliquez compulsivement et soyez patient pour créer des engins à base de patates et lancer des sondes depuis votre vaisseau capricieux en orbite autour d'une planète mystérieuse. Découvrez les mystères de l'univers ou passez le temps dans ce que la communauté des astrophysiciens a décrit comme le meilleur jeu de clic intégré dans une ambiance de science-fiction de tous les temps. C'est un clicker narratif de science-fiction avec un vaisseau alimenté par des patates.
What?
Ça a l'air malade! faut qu'on joue! C'est bien trop cool!
Bon.
Ça a tout un rapport avec le livre qui est super culte, La brève histoire du temps de Stephen Hawking. Puis, mais que ton personnage comprend pas, genre. Fait que tu lis son incompréhension du jeu. Ça te rend malade. C'est sur Steam aussi, c'est sur Android, c'est sur le App Store.
Il semblerait qu'il existe une version prototype. On peut jouer dans le browser.
Oui, effectivement. Et moi, je pense que je vais directement l'essayer. Ça a l'air bien trop cool.
Space Plan, an experimental piece of interaction based partly on a total misunderstanding of Stephen Hawking's A Brief History of Time. Bon.
Ça a tellement l'air cool.
Ouvert dans un onglet.
C'est tellement
de la chanson de Slowpoke.
Il y a une chanson de Slowpoke?
Ben oui. Ah, tu t'es pas rendu à la fin du vidéo, là. Il te propose d'autres affaires, puis là, il y a la chanson de Slowpoke. Puis là, la chanson de Slowpoke, j'ai cliqué dessus, j'ai écouté comme 10 secondes. C'est un reggae.
C'est un reggae.
Avec un chanteur reggae.
Oh mon dieu.
Digne de Parappa the Rapper dans la.
Ben dans Parappa the Rapper, oui, c'est ça le nom du jeu.
Rapper. Oui, non, mais je cherchais le nom du level.
Oh boy!
C'est la grenouille qui fait du reggae, genre. In the rain or in the snow. In the rain or in the snow.
C'est celle qui est... C'est-tu le coiffeur? La grenouille? Il y a un level dans Tu fais des burgers, il y a un level avec un coiffeur, il y a un level avec une drill militaire, fait que ça doit pas être lui. Je me rappelle plus.
Je m'en souviens pas assez de Parappa the Rapper.
Non, mais j'ai joué comme l'année passée, ça fait vraiment pas longtemps.
Ouais.
Et... Ouais, fait que ça, c'est ma suggestion qu'on va sûrement vous en donner des nouvelles bientôt. Space Plan, ça a l'air complètement fou.
Parlant de jeux mobiles, Nintendo a aussi annoncé, mais là, c'est comme loin, loin, loin.
OK.
En fait, non, je pense que c'est même pas, ils ont même pas annoncé, c'était plus comme une rumeur. Il y a un jeu mobile de Zelda. Mais...
Ah, ouais!
Mais,
non,
mais il aurait aussi dit que Animal Crossing va sortir avant, fait que... Tu sais, il y a longtemps, là, il avait dit « Ah, oh, on va faire un Fire Emblem puis un Animal Crossing sur mobile. »
Mais le Fire Emblem, il est fait, by the way.
Puis le Mario est fait, puis le Pokémon est fait. Il resterait juste le Animal Crossing.
Mais ça, c'est une bonne idée, là. Je suis sûr que ça va tellement pogner, Animal Crossing, sur mobile.
Ouais, mais comment ils vont le monétiser?
Ben, t'as sûrement des ressources. J'ai jamais joué, là, mais... T'as sûrement des ressources, ou sinon ça va te prendre du temps à voir quelque chose, ou sinon que... peut-être qu'il va falloir que tu reviennes tout le temps. Va falloir que tu reviennes tout le temps, mettons, va falloir que tu fasses de la pêche à 5h du matin, et puis là, il va falloir que tu récoltes, tu t'arroses tes plantes à 6h le soir. En plus, si tu le manques, là, tu vas peut-être pouvoir payer de l'argent pour faire les choses que t'as manqué dans ta journée. Genre, le marché est ouvert entre 10h puis midi. Fait que si tu veux vendre tes affaires, faut t'aille là. Sinon, manqué. Je sais pas, c'est Animal Crossing. Que... Plein de choses qui
se trouvent. Tu es en train de faire référence à Mystic Messenger, là?
Ouais. Je suis encore fâché.
Mon Dieu.
Mais non. J'ai pas rejoué, par exemple. Noob.
Bon, mais là, au lieu de parler de jeux qu'on n'a pas joué,
ouais. Il
semble qu'on pourrait parler de jeux qu'on a joué.
On pourrait. On pourrait quand même parler de jeux qu'on n'a pas joué, puis je pourrais mentionner que j'ai écouté The Last of Us, The Movie, qui avait été une... voyons.
Non!
Qui avait été recommandée par Narf il y a genre 2 ans.
Anne-Marie.
C'est super bon, ça s'écrit comme une... Ça s'écoute comme une série télé, c'est parfait.
Il semblerait que ta connexion refasse le problème qu'elle fait de temps en temps. Alors, ça un petit longtemps. Déconnect et reconnecte serait apprécié. Pendant ce temps, étant donné que je suis seul dans le podcast, je vais pouvoir dire des insanités dans le dos d'Anne-Marie. Comme Anne-Marie pue ou Anne-Marie... Oh! Est revenue.
Non, ça faisait longtemps que ça n'avait pas fait ça. C'est-tu correct?
Oui, là, c'est correct. Parfait. Là, il y a juste tout. Il y a juste moi et les auditeurs. On a un secret.
Ouais, c'est ça, hein?
Ouais.
J'ai tout manqué.
Oui. Il va falloir que tu écoutes le live. Il va falloir que tu écoutes le montage.
Et.
Pour savoir c'est quoi le secret terrible que j'ai révélé à ton sujet.
À mon sujet.
J'en ai trop dit.
Oh, ben. Sacré, sacré pain.
Alors, bon. Alors donc, t'as joué sans jouer?
Oui, c'est ça. J'ai eu l'expérience de Last of Us sans jouer à The Last of Us. Puis, ben, je salue le gars qui a fait le montage parce que c'est vraiment pas juste les cutscenes, c'est vraiment toutes les bouts importants où est-ce que les deux personnages interagissent, où est-ce qu'il y a des dialogues et tout. Puis, mm-hmm. C'est super intéressant. Là.
Puis, les moments d'action importants. Pour que tu puisses. Ben, genre, les séquences de gameplay raccourcies pour que tu puisses, comme, suivre l'histoire. Puis comprendre. J'imagine que.
Ça s'écoute vraiment comme une série télé, c'est ça qui est parfait. Ouais.
Ça dure quoi? 1 heure? 2 heures? 3 heures?
Ça dure 6 heures.
Ça dure 6 heures?
Oh oui! C'est long en titi. À moins que t'aies écouté un autre cut, là, mais celui que moi j'ai écouté dure 6 heures, puis. Mais il y a peut-être des longueurs. Moi, je suis tout le temps d'autres choses quand j'écoute des séries, là. Mais vers la fin, là, c'est super prenant, là. Vers la fin, j'écoutais juste ça, je faisais rien d'autre en même temps, là.
Là, ce serait
C'est vraiment
dommage
super
qu'on
bon.
fasse des spoilers, mais j'aurais vraiment envie de te demander qu'est-ce que t'as pensé de la fin.
Ah, hey! J'ai vraiment réfléchi longtemps à la fin, là. Ça m'a vraiment fait, genre, réfléchir, là. Ah.
Ouais.
Ouais. Moi aussi, j'ai trouvé que ça a fini vraiment drôle, là. Parce que ça finit pas vraiment bien.
Ouais.
C'est ça, tu peux pas dire que ah, c'est une belle fin satisfaisante, tout ça. T'as comme un soupir de satisfaction, puis là, tout est bien, puis tu peux reprendre ta vie comme avant. Non, non, ça finit pas comme ça. Fait que c'est super dérangeant comme fin, là.
Ouais, puis des fois, il y a des films qui finissent mal comme ça, puis tu sais, souvent on est juste comme ah, oh, j'aime pas ça. Ah, oh, j'ai c'est pas bon là, la fin était pas bonne. Mais là, tu peux pas dire que la fin était pas bonne, parce que la fin est bonne. Et même géniale. Puis
Ouais.
justement, c'est ça qui fait que c'est encore pire. Fait que, ouais.
Ah ouais, c'était quelque chose. Mais là, y a-tu des jeux auxquels tu as joué, joué là? Joué pour de vrai?
Ben, oui. J'ai joué à Heroes of the Storm.
Ah.
Mais en fait, je voulais justement en parler.
Ouais.
Parce qu'ils ont sorti un nouveau bonhomme.
Ah oh, oui, ça bonhomme de Overwatch.
Oui, c'est D.Va, la gamers, streamers, qui est dans un pilote de gros robot
Oui, c'est
géant.
ça. Fait que comment ça joue? Est-ce qu'elle est toujours dans son gros robot ou est-ce qu'elle sort à l'extérieur de son gros robot?
Ben justement, ils ont. Elle a sa particularité, c'est justement qu'elle peut être dans son robot et en sortir, comme dans Overwatch, en le faisant exploser. Dans Overwatch, je pense que dans Overwatch, quand son robot explose, quand son robot se fait détruire, elle continue, elle n'est pas morte encore.
Ah, ça peut, pour vrai, je sais vraiment pas.
Ah bon, ben.
J'ai juste vu les
Un peu de backstory sur D.Va dans Overwatch. Basé sur mes énormes connaissances de Overwatch, quand j'ai
images.
joué à peu près 2-3 heures durant le premier free weekend, v'là full
Oh.
longtemps. Ce qui fait de moi un expert.
Absolument.
Eh bien, D.Va, quand tu y tires dessus puis que son robot explose, elle n'est pas morte encore. Le robot explose, mais elle, en tant que pilote, elle sort, elle se fait éjecter du robot. Puis là, ben, elle devient un bonhomme très vulnérable, qui a vraiment pas beaucoup de vie.
Ouais, ça m'a pas. Hein?
Parce que D.Va dans le robot, c'est un tank. C'est un
Ouais.
personnage
Mais
tank.
elle est genre en soute de spandex.
Et là, elle devient. Oui, ce qui est pas du tout inspiré par Evangelion.
Non, non, non. Ben
Ou
non.
j'imagine, je sais plus, il y a quand c'était
Yo.
pas leur saut dans
Pacific Rim, il y a deux personnes dedans. Fait que c'est un peu différent. Je sais pas.
Oh,
Ben, je
j'ai
sais
pas
pas
vu
si ils ont fait ça
Pacific
pour.
Rim. C'est-tu bon ce film-là?
Oh, ouais. Oh, ouais. C'est sûr que ça donne des grosses vibes d'Évangélion, mettons,
Mais
là.
c'est
Genre,
correct ça.
vraiment beaucoup. Mais,
C'est
ouais, c'était
parfait.
correct. C'est un film d'action, là. Il y a des pow-pow, puis il y a des gros robots, puis il y a des gros aliens, puis tout le monde se tape dessus, puis.
J'imagine qu'ils n'ont pas gardé le
C'est
côté
correct.
dépressif de Evangelion.
C'est moins pire.
Ouais.
Mais Evangeline, c'est psychotique, là, c'est bizarre, là.
Ah ouais.
Mais.
Dans Overwatch non plus, ils n'ont pas gardé cette partie-là.
Non.
Non, c'est ça. Elle, c'est un tank. Elle a une espèce de. Dans Overwatch, là, elle peut faire une espèce de. J'ai pas trop compris comment ça marche dans Overwatch. C'est une espèce de projection holographique. Puis je pense que les ennemis qui sont
Oh.
dedans, ils font moins de damage ou ça la shield contre les dommages de ces ennemis-là. En tout cas, quelque
OK.
chose dans ce genre-là. Bref, elle absorbe du damage ou elle réduit du damage. Puis
Good.
elle a des machine guns dans le robot qui font. Puis je sais pas qu'est-ce qu'elle fait d'autre. Dans Heroes of the Storm, ils ont réussi à garder vraiment toutes les mécaniques. Fait que quand tu meurs, quand l'autre équipe réussit à faire péter le robot, elle se fait éjecter pour
Okay.
devenir juste un pilote qui a vraiment pas beaucoup de vie, mais qui peut quand même continuer à faire du damage en attaquant avec son gun. Puis, puis justement, quand tu fais ces attaques-là, à chaque fois que tu attaques, ça réduit le cooldown pour rappeler un autre robot, pour pouvoir rembarquer dans le robot.
Ok, tu peux rembarquer dedans.
Ben oui.
Ah, c'est cool.
Fait que c'est comme t'es mort, pis là, t'as pas beaucoup de vie, fait que tu veux être safe, mais tu veux quand même continuer d'attaquer pour rappeler ton mecha au plus vite. Mais, ils ont quand même, pis je pense que dans Overwatch aussi, c'était comme ça, c'est comme, tu veux rappeler ton mecha au plus vite, mais peut-être pas nécessairement non plus, parce qu'elle fait beaucoup de damage en tant que pilote. Son petit gun, genre, il a un bon range, puis il fait pas mal de dommages. Genre, comparé aux autres héros, là, elle fait comme pas mal de damage. Fait que tu veux peut-être la garder comme ça, mais super vulnérable, fait qu'il faut que tu sois safe. Fait que c'est vraiment intéressant pour ça. Puis sa grosse attaque, c'est... en fait, non, c'est même pas sa grosse attaque. Elle peut faire exploser son robot. Okay. Donc, elle peut le mettre en self-destruct. Puis là s'il si, y a comme une espèce de grosse zone qui s'illumine. Puis là, si les ennemis sont dedans, quand le timer, le countdown est fini, ça pète. Puis ça, ça les pousse, ça leur fait beaucoup de dommages. Puis, je joue. Puis là, après, t'as un paquet de stratégies que tu peux faire. Genre, tu peux... Elle a une espèce de dash avec des espèces de fusées sur son... Tu sais, oui. Dans Heroes of the Storm, les bonhommes, ils peuvent...
Non, pas ils vont sur une monture?
Ouais, dans Heroes of the Storm, les bonhommes peuvent aller voir une monture pour se déplacer rapidement dans la map. Elle a pas ça parce que ben, c'est un robot géant.
Déjà sur quelque chose.
Tu peux pas mettre un robot géant sur un cheval. Fait que sa vitesse de base est vraiment plus lente qu'un héros normal, pas de monture. T'sais, un héros normal à pied est comme encore plus lente que ça. Mais elle a un boost qu'elle peut activer assez fréquemment pour aller vraiment vite, beaucoup plus vite qu'une monture. Fait que c'est comme. Faut que tu joues. Faut que tu saches ce que tu fais dans le fond. Faut que tu déclenches ce dash-là au bon moment. Puis là, moi, ma super stratégie que j'ai. C'est pas une grosse stratégie, là, mais c'est comme. Mettons que tu es en train d'attaquer une équipe, puis que là, il en reste juste un, puis que là, il est comme. Ah, faut que je m'en aille. Tu pars ton dash, tu t'en vas en avant de lui, puis là, tu fais juste utiliser ton gros corps massif pour le bloquer le chemin.
OK.
Puis là, il peut comme. Tu fais juste comme gosser devant lui, puis là, le pathfinding du jeu a de la misère, puis là, tu fais juste comme l'empêcher d'avancer. C'est du body block, là, dans le fond. Dans...
Ouais, OK.
Sauf que, d'habitude, les héros qui peuvent faire ça dans Heroes of the Storm, tu peux jamais bouger puis attaquer en même temps. Il y a genre. Il y a juste comme. Genji puis Tracer, je pense, qui sont capables de bouger puis d'attaquer en même temps. Ben là. D.Va est aussi capable d'attaquer puis bouger en même temps. Fait que non seulement tu peux aller te foutre dans leur face pendant qu'ils essayent de s'en aller, mais en plus tu leur tires du gun dans la face. C'est comme trop génial.
Ah! Puis là, tu bloques la retraite dans le fond.
Ouais. Puis là, il s'en va vers les turrets puis leurs portes pour se protéger. Puis là, tu fais comme « OK, je self-destruct mon robot et je déconnecte mon candidate. » Et là, ça explose. Et c'est très cool. Et là, tu rappelles un autre robot, puis tu rembarques dedans. Fait que ça, c'est cool parce que ça te permet. Tu sais, la grosse explosion, en plus, ça te permet de pas donner les points d'XP à l'autre équipe.
Mm-hmm.
Genre, quand tu fais un kill, ça donne des points. Elle, D.Va, c'est drôle parce que si tu tues, elle donne. Si tu tues le robot, ça donne juste 50% des points. Après ça, si tu tues le pilote, ça donne l'autre 50% des points. Si tu veux 100% des points, 100% du kill, dans le fond, faut que tu ailles péter le robot et le pilote.
OK.
Ou tu pètes le robot deux fois, I guess, ça va te donner quand même... Ça va te donner autant d'XP, mais là, ça t'a pris du temps. Puis, fait que, tu sais, si tu réussis à te faire exploser juste avant de mourir, ben là, c'est toi qui as déclenché l'explosion, fait que tu leur enlèves le kill. Bon, c'est sûr que là, faut que tu sois bon pour sacrer ton camp de là.
Ouais.
Ce qui est plus ou moins facile. Mais à date, vraiment cool comme bonhomme.
Ah, nice.
Puis, il y a une fille à job qui... T'sais, moi, j'ai pas joué beaucoup à d'autres MOBA. En fait, j'ai presque pas joué à rien d'autre.
Mm-hmm.
Mais elle disait qu'elle a joué à un paquet de trucs. Puis elle dit, j'ai jamais vu de héros weird de même. Mais c'est genre, mais weird cool, pas comme ouais. Weird push.
OK.
Ils ont, non seulement ils ont réussi à bien transporter les mécaniques de Overwatch dans Heroes of the Storm, mais en plus, ils ont fait un bonhomme qui est juste cool, puis le fun à jouer, puis intéressant, puis avec du gameplay intéressant.
Mm-hmm.
C'est fou quand tu y penses. Parce que, tu sais, là, mettons toi et moi, là, on joue à des jeux indie, là, puis souvent, ouais. On joue à un platformer, puis on dit « Ah, ce platformer-là, il est cool parce que mon bonhomme, il est plus comme tel type de bonhomme, puis il est plus gros, fait qu'il se déplace lentement, mais il y a un dash, puis... » Ou on joue à je veux dire, je pense que tu joues à Transistor, je sais pas exactement comment ça marche, mais dans moi, je jouais à l'autre avant, là.
Bastion,
ouais. Heureusement que t'es là, parce que c'est sûr que je ne serais jamais rappelé. Puis tu sais, Bastion aussi, là, c'est un jeu d'action, mais il feel comme particulier. Fait que,
mm-hmm.
tu sais, chaque jeu a sa manière de bouger son personnage, de bouger le personnage joueur, puis d'attaquer, puis de faire ses moves. Puis Heroes of the Storm, j'ai l'impression qu'à chaque nouveau héros, ben, peut-être pas toutes, là, mais souvent, c'est comme un nouveau jeu.
Ah, oh, mais c'est cool, ça.
Puis là, tu dis comme, yo, pour les programmeurs, là, ça doit être complètement fou. Puis les cas particuliers, puis les...
Ils font vraiment attention, tu sais, pour que chaque héros soit unique, puis sa propre expérience de jeu, là. C'est cool. Yep.
Puis ça doit tellement causer des bugs weird. Parce qu'à chaque fois que tu fais... Tu sais, c'est facile de dire « J'ai fait un type de jeu, mes bonhommes, ils ont tous à peu près le même genre d'attaque. » Fait que oui, j'ai des paramètres,
mm-hmm.
mais c'est à peu près tout le temps la même chose. Fait que, tu sais, c'est facile à tester dans ce temps-là, puis à fixer les bugs. Mais là, quand t'as des bonhommes complètement weird, genre, ça veut dire que t'as des... Avec des mécaniques complètement nouvelles, ça veut dire que t'as tout un beau nouveau... bassin de bugs à fixer parce que là, chaque nouveau bonhomme peut interagir avec tous les anciens bonhommes. Puis là, tu te dis genre, ouais, mais là...
Tu balances à chaque fois.
Ben, non seulement le balancing, mais aussi le... Tu sais, les priorités, genre. Je lisais, ils ont répondu aux questions des gens sur... quand ils ont sorti le héros le mois passé de Genji. Qui venait aussi de Heroes of the Storm. Il parlait de... Tu sais, Genji, si j'ai bien compris dans Overwatch, il a une espèce d'habilité qui peut... Que quand il déclenche son habilité pendant une certaine durée, tous les projectiles qui arrivent sur lui sont renvoyés à
la personne qui l'a envoyé.
Genre. Fait qu'ils ont dit, tu sais... Ils ont dit, ouais, Genji nous a donné bien de la misère. Ça fait vraiment comme un an qu'on essaye de le mettre dans Heroes of the Storm, puis à chaque fois, ça ne marchait pas. Parce que dans Heroes of the Storm, les projectiles ont des distances.
Okay.
Alors que dans Overwatch, ben, tu tires, ça tire.
Ouais.
Ni, hein, c'est une balle de gun. Okay. La balle de gun, elle va pas dire j'avance juste 10 mètres, puis après ça, je tombe.
Mm-hmm.
Ben, il y en a certains bonhommes que oui, là, mais ils sont plutôt rares. D'habitude, un projectile dans un first-person shooter, ça va en ligne droite jusqu'à l'infini. Fait que tu sais, dans ce temps-là, c'est facile de dire, genre, je renvoie le projectile à sa source.
Mm-hmm.
Mais comme il y a des distances dans Heroes of the Storm, ça devient compliqué. Parce que là, qu'est-ce qui arrive si Genji renvoie le projectile à moitié de sa distance? Est-ce que... ou plutôt, mettons que le projectile a parcouru 80% de sa distance. Presque tout parcouru sa distance, puis normalement, il disparaîtrait. Mais là, Genji, il renvoie. Qu'est-ce que tu fais? Là, ils disent, est-ce qu'on lui laisse continuer sa distance? Mais là, il va juste avancer là, comme le petit 20% qui restait. Fait que c'est comme poche.
On fait un petit bout, puis...
Est-ce que le projectile est renvoyé à 100% de sa distance? C'est comme si ça le resetait. Mais ils disent, ouais, mais attention, là, parce qu'on a des certains bonhommes que leurs projectiles, ils vont grossir selon la distance. Je pense à Li Ming. Quand elle pitch sa grosse boule, la boule, elle grossit. Puis plus elle grossit, plus elle a une grosse... Genre, plus tu la tires de loin, plus elle pète fort. Puis plus elle pète gros.
Okay.
Fait que là, qu'est-ce qui arrive si Genji la reset puis la renvoie? Est-ce qu'elle redevient petite puis la grossit? Est-ce qu'elle reste grosse puis là, elle peut devenir encore plus grosse? Puis, en tout cas, il disait genre, c'est complètement fou. Ça nous a créé des millions de bugs. Puis là, à cause de ça, ils ont fait, bon, là, ça marche pas. Fait que c'est pour ça qu'ils ont changé Genji dans Heroes of the Storm. Son habilité de reflect est un peu différente. C'est-à-dire qu'il absorbe tous les projectiles, puis il renvoie lui-même des projectiles à ce moment-là. Okay. En tout cas, c'est un peu plus compliqué, là, mais grosso modo, c'est ça. Fait que ça. C'est comme si lui renvoyait un nouveau projectile, il tire un espèce de shuriken. Comment t'appelles ça? Un kunai.
Ah, les petits couteaux.
Les couteaux dans Naruto. Un kunai.
Hein?
Moi, je connais ça, les ninjas et les samouraïs. J'ai écouté Naruto. Ce qui fait donc de moi un expert ninja.
Voilà.
Autant que j'étais un expert Overwatch. Alors, ouais. C'est compliqué de faire des jeux vidéo.
Ah, c'est clair.
Puis à chaque fois que tu rajoutes une nouvelle patente...
C'est ça, surtout parce que c'est jamais un produit fini, c'est toujours un work in progress, fait que oublie ça, t'as jamais fini de balancer.
C'est exponentiel, en fait. Tu sais, quand t'introduis un nouveau, mettons que t'as 10 bonhommes, puis que t'introduis un 11e, ben c'est le 11e versus les 10. Fait que ça te fait, je sais pas, ça te fait 11 nouvelles combinaisons. Mais là, après ça, quand t'es rendu à ton 12e, puis après ça, mettons ton 40e bonhomme, ben là, c'est 40 combinaisons que tu rajoutes. Compliqué, ça.
Ouais.
Surtout si, en plus, les combinaisons de deux héros ensemble... Tu sais, qu'est-ce que ça fait si tu utilises la Void Prison de Zeratul puis l'espèce de Gravity Pulse de Zarya puis qu'en même temps, t'as mis un Dampening Field de D.Va? Qu'est-ce que ça fait? Ah, fuck! On le sait pas.
Là, ça...
T'as un million de paramètres puis de bugs, puis c'est...
Ça va être compliqué.
C'est une grosse job, puis je sais pas... Tu sais, ça... Faut... Là, les attentes sont là. C'est comme, ils peuvent pas... C'est un héros par mois, hein? Fait qu'ils peuvent pas réduire la cadence, puis je sais pas combien ils sont rendus, peut-être 30, 40? Quand ils vont être rendus à 100, comme dans... Dota, puis je sais pas combien il y en a dans League of Legends.
Fou, là. Ouais, ça doit ressembler à ça aussi. Il y en a plein trop.
À chaque fois, c'est encore plus de job. C'est un problème intéressant, je trouve. Ça, puis ils ont tout, tu sais, récemment, là, je n'ai parlé de l'update 2.0, qui ont tout changé l'économie du jeu, puis la manière que tu obtiens les items.
Ouais, parce que maintenant ils ont des loot box.
Mm-hmm.
C'est à mode les loot box.
Ben, j'imagine que c'est parce que c'est efficace. Mais mon frère est comme. Mon frère m'a dit l'autre jour, il dit, je suis pas comme un Blizzard des fonds pour avoir de l'argent. J'ai toutes les skins que je voulais. Fait que je vois pas. Pourquoi je payerais?
Pourquoi j'en achèterais?
J'ai toutes les skins que je voulais. Je suis comme, ben, j'imagine que t'es pas toutes. Puis.
Ouais, t'es pas tout. C'est du monde qui collectionne pis qui veulent tout, là.
Ouais, pis j'imagine aussi que, tu sais, si t'es un joueur qui joue tout le temps, tous les jours, t'as une valeur aux yeux de Blizzard.
Ouais. T'es exposé à leur contenu constamment.
Ben c'est ça, c'est que tu deviens comme une espèce d'outil de promotion.
Mm-hmm.
Parce que t'invites tes amis. Eux, ils n'ont pas joué depuis le premier jour. Fait qu'ils n'ont pas débloqué le nouveau héros à chaque mois au fur et à mesure. Ouais. Eux autres, ils en ont 50 à débloquer là, des héros. Je sais pas. Je dis un chiffre, là, mais faut tout qu'ils débloquent. Puis là, c'est pour ça qu'ils ont fait une grosse promotion récemment, là, genre avec la patch de 2.0. Ils ont fait pour essentiellement gratuit parce qu'ils te donnaient. Avec l'update, ils te donnaient un paquet de gems, genre 1000. Puis. Justement, il y a 4 bundles dans le store qui coûtent 100 chaque. Bon, tu peux juste. Ils ont mis une limite, tu peux juste n'acheter un des 4. Mais il y a 20 héros dedans. Fac. Yo! Ouais. C'est 20 héros gratuits là, que tu viens de me donner. Là. Mais c'est parce que les joueurs qui viennent juste d'installer le jeu, eux autres, ils partent de loin pour dans leur parcours pour dans débloquer leur... tous les héros.
Oui, c'est ça, dans leur collection.
Alors voilà.
Wow.
Heroes of the Storm, c'est encore le fun. Je joue encore tout le temps. Puis là, depuis que D.Va est sorti, c'est encore pire.
Wow. Mais parlant de jeux qu'on joue tout le temps, moi, c'est sûr que je joue toujours encore à Final Fantasy XIV. J'ai enfin rattrapé l'histoire, le scénario principal. Parce que c'est un MMO, mais il y a vraiment une histoire avec des cinématiques et tout, qui est vraiment beaucoup plus prenante, puis qui est super intéressante, qui donne vraiment le sentiment que tu joues à un Final Fantasy, là. Mm-hmm. Que t'es vraiment un héros, puis... Fait que j'ai terminé toute l'histoire qu'il y avait. Dans le fond, il y a déjà le jeu complet puis une expansion. Il y a une autre expansion qui sort en juin. Fait que j'ai bien hâte de voir ça. Fait que j'ai rattrapé dans fini, le fond. Ouais.
T'as fini l'histoire du jeu puis de l'expansion.
Ouais, puis de toutes les patchs aussi qu'il y a entre cette expansion-là puis l'autre qui s'en vient.
Fait que t'as tout fini l'histoire.
Super hâte. Ouais, j'ai super hâte à la prochaine expansion. Puis c'est vraiment bon l'histoire. C'est vraiment full touchant, puis tu joues longtemps avec ce personnage-là, fait que t'es vraiment comme attaché, puis il se passe plein de choses avec eux. C'est super chouette.
C'est intéressant ça, parce que ça l'a effectivement, tu sais, on parle de jeu, ça fait combien de temps que tu joues là?
Un an et demi, ben j'ai pris un break là, mais ça fait peut-être un an et demi genre, au total là.
Fait que ça devient comme une télésérie dans le fond.
Ben oui, parce qu'à chaque patch, il y a un peu plus de... C'est ça, à chaque patch, il y a des quêtes qui sont ajoutées à la quête principale. Fait que t'as un peu plus de contenu. Fait que oui, ça t'en sait un petit peu plus. Puis ça s'en va dans une direction. Puis là, quand tu vois des previews de l'expansion, tu te dis « Ah! Oh, ça va s'en aller dans cette direction-là! » Fait que ouais, c'est peut-être un peu comme une télésérie, dans le fond.
Puis les personnages y reviennent, je suppose?
Oui. Ouais, tu suis les mêmes personnages pas mal depuis le début. Là. Il y en a qui meurent, puis il arrive des affaires. Là. Mais. Ouais, pour un jeu de Final Fantasy, il se gêne pas trop pour faire mourir du monde, ce qui est quand même étonnant. Là. Tout souvent, on s'attend à ce qu'il soit comme un peu plus gentil. Là. Mais non, ça meurt des fois. Puis c'est terrible.
Ouais. C'est quel genre d'histoire quand tu dis c'est super intéressant? Est-ce que c'est.
Ben c'est vraiment une histoire à la Final Fantasy là, que t'es un héros puis faut que tu protèges ton monde, il y a tout le temps quelque chose là, mais dans celui-là mettons peut-être un peu comme dans le 6, il y a un empire, il y a un gros empire méchant qui décide qu'ils vont genre conquérir une zone puis asservir tout le monde, ou sinon il y a des races de créatures bestiales qui prient un dieu qui adresse leur prière à un dieu puis qui font plein d'offrandes puis à un moment donné ben ils summonent puis ça devient le classique summon de Final Fantasy puis là faut que tu te battes contre pour le défaire parce que là, les autres sont après summoner des dieux de partout puis créer des catastrophes naturelles. Fait que c'est beaucoup des thématiques qui reviennent là, c'est peut-être un peu fan service là-dessus pour les fans de Final Fantasy qui connaissaient déjà tous les autres jeux là. Mais c'est que tu suis un peu ton espèce de groupe de personnes qui sont un peu comme des vigilants qui s'assurent que tout l'équilibre soit maintenu dans le monde. Il y a toute une game de politique avec les villes puis les pays, mais en parallèle, c'est ça, t'as ta petite gang de gens qui justement s'occupent de combattre les summons que des troupes des tribus bestiales décident de summoner parce que bon, c'est leur dieu, puis ils font plein d'offrandes, puis là, à un moment donné, ils summonent. Ah! C'est genre Ifrit qui décide de semer le chaos sur le monde, fait que c'est
ton rôle de péter. C'est lui encore.
Ah ben, il les a toutes, il y en a plein, là, tu sais, c'est très, très fanservice, là. Il va avoir une race de bébites que leur dieu, c'est Ifrit, plus une autre race de bébites que leur dieu, c'est Titan, puis là, faut aller le péter, lui, c'est...
C'est le dieu du McDonald's, ça?
Ah! Oh, Ifrit! Ben... Ifrit avec ça!
Ben, c'est ça. Au McDo, il y a les frites.
Fait que, mais c'est ça, t'as des personnages qui sont comme persistants, qui restent avec toi... pas mal à travers toute cette histoire-là, puis tu les découvres. Puis c'est super intéressant, c'est vraiment le fun.
Puis toi, tu joues ça single ou multi?
Ben non, j'ai des amis qui jouent aussi, là. Mais ce que j'aime, ce que j'adore avec Final Fantasy XIV, c'est que, c'est ça, contrairement à la plupart des MMO, qui quand ils font des patchs, ben ils sortent un nouveau donjon, un nouveau raid, quelque chose. C'est là-dedans aussi, mais c'est plus axé sur l'histoire, puis c'est pas... Tu sais, il y a tout un jeu endgame pour les gens qui sont au niveau maximum, qui font les plus gros raids, puis eux autres, ils ont leur fun, ils ont leur truc. Mais quand t'es un joueur casual qui fait sa petite affaire, c'est quand même très jouable, c'est très... T'as pas l'impression que tu manques le jeu parce que t'es pas encore au niveau maximum. Tandis que, mettons, quand je suis retournée à WoW l'été passé, j'ai vraiment eu l'impression que ben c'est une course pour atteindre le niveau maximum, puis là, ta vie commence, entre guillemets. Genre, ta vie commence quand t'atteins le niveau maximum, puis là, tu peux faire les gros donjons avec tout le monde. Mais Final Fantasy XIV, c'est pas ça. Tu fais ton histoire, puis vu que ton personnage a le droit de faire toutes les classes possibles, ben t'es tout le temps en train de revenir au niveau plus bas pour pratiquer une autre classe. Le crafting est aussi une option super viable. Le gathering est une option super viable aussi pour monter de niveau. Fait que t'as plein de choses à faire. Puis quand il y a toujours des groupes, le matchmaking est super bien fait. Il y a toujours des groupes pour les donjons. Puis les donjons, c'est pas genre... Les donjons que tu as besoin de faire, mettons, pour le scénario principal et tout, ça va tout le temps des donjons que tu n'as pas besoin d'être avec des gens que tu connais, synchronisés sur Internet, à se parler avec des micros pour être capable de faire la stratégie tout comme faut. C'est pas dur à ce point-là. Fait que tu es capable de passer à travers le contenu quand même assez facilement.
J'imagine que les gros tough donjons de la fin, eux autres, tu es obligé.
Ouais, c'est ça. Ouais, eux autres, faut que tu saches à ton affaire. Faut vraiment que tu sois à ton affaire. Hein. Fait que c'est ça, pour les gens casual, c'est plus le fun. T'sais, comme là, j'ai fait un break pendant une couple de mois, puis tu reviens, puis tu sais, mettons, il y a des patchs que ben j'avais même pas fini l'histoire. En fait, même s'il y avait des patchs d'histoire que j'avais manqué, j'étais pas perdu. J'ai juste continué où est-ce que. J'ai continué l'histoire où est-ce que j'étais rendu, puis c'est tout. Fait que c'est vraiment, je trouve que c'est le MMO qui est fait pour les fiertés casual. Parce que t'as beau jouer en fou. Ça va super bien aller, tes affaires vont progresser, puis tu vas te sentir aussi récompensé que si tu joues de temps en temps, que tu vas quand même être capable de faire quelque chose. T'sais, au lieu de te sentir que bon, là, tout le monde attend après moi, là, puisque j'ai pas encore le niveau pour faire les donjons. Vu que à chaque fois que tu rentres dans un donjon, ton niveau à toi s'adapte au niveau du donjon. Tout est syncé, genre. Fait que tout le monde peut jouer avec tout le monde. Même si t'as un ami qui est super hardcore, qui fait tous ses gros raids, il peut quand même venir faire des donjons avec toi, puis ça va être intéressant. Et vice-versa. Toi, tu peux aller faire des donjons avec aussi. Fait que, c'est sûr, si t'es pas débloqué, t'es pas débloqué, mais... C'est un jeu qui te pénalise pas pour être un casual comme moi. Fait que, j'aime vraiment ça. Puis en plus, il y a une histoire. Moi, j'aime pas tout le temps ça. T'sais, mais moi, je serais pas tant parce que moi, parler à du monde tout le temps, puis être toujours obligé d'interagir, puis des fois, j'ai juste le goût de jouer puis d'être tranquille, là. Ben ça, c'est un jeu où tu sais, je peux juste aller faire mon histoire principale dans mon coin puis être tranquille. Puis là, quand j'ai besoin d'un donjon, demander à quelqu'un, mais j'ai même pas besoin de demander à un humain, genre, pour faire les donjons qui sont requis par la quête principale. Tu peux juste faire le matchmaking, te ramasser dans un groupe, puis les donjons prennent pas des heures non plus. Peut-être prendre maximum une heure, puis ça va être vraiment un gros donjon, là, puis que tout le monde va avoir de la misère, là.
C'est
ouais, c'est un jeu qui est fait pour les gens qui ont une vie. Fait que Final Fantasy XIV, je le recommande encore parce que c'est ça. C'est un MMO pour le monde qui a une vie.
Tant ça, parce que nous, parfait. On en a rien qu'une.
Mais en plus, hein, fait qu'on n'a pas juste ça à faire. Farmer pour essayer de rejoindre tes amis que tu rejoindras jamais parce qu'ils sont les autres qui ont joué pendant des années puis pas toi, tu sais. Tout le monde est capable de se rejoindre puis d'avoir du fun ensemble. Fait que Je trouve vraiment que c'est un jeu qui a réussi à ce niveau-là. Puis c'est ça, l'histoire est full cool. Fait que t'as pas l'impression que « Oh, mais c'est pas un vrai Final Fantasy parce que c'est un MMO. » Non, t'as quand même les personnages cool, puis les personnages comic relief, puis les personnages plus graves, puis il y a du monde qui meurt, t'es comme « Ben non, ils peuvent pas vraiment l'avoir tué, là. On va le revoir, là. » Mais non. Il est vraiment mort. Ressusciter. Il est vraiment mort. Non! Fait que t'as vraiment... Là, il décide de faire une... Comme l'histoire au début est un peu plus tranquille, puis là, t'arrives à la fin... du jeu, puis là, il y a des moments à la Game of Thrones, il y a de la politique, puis il y a des complots, puis il y a des affaires qui explosent, puis... Ah. C'est cool.
Wow.
Ouais. Ouais.
Ce que tu me disais tantôt, les ajustements de level automatiques, là, pour que tu puisses jouer avec tes amis, j'ai recommencé à jouer à Clash Royale, alors que je l'avais essayé un peu au début, j'avais joué comme peut-être une semaine, puis j'avais fait c'est du pay to win. Et là, j'ai recommencé plus récemment, après avoir lu un article qui décrivait, en fait, c'était un article que je faisais pour la job, qui décrivait comment que l'économie fonctionnait, qui décrivait à quel point ce n'est pas pay to win. J'étais comme, Fait que quand je l'ai recommencé à jouer pour la job, là, j'étais comme, oh, c'est quand même le fun. Fait que... Et donc, pourquoi que je voulais parler de ça, c'est... C'est ce que j'ai remarqué, c'est que quand tu fais des matchs avec tes amis, ça, c'est l'affaire qui m'a toujours dérangé. Tu sais, dans le temps, là, on jouait à Pokémon. Ouais. Pokémon rouge, bleu, gold, silver.
Ouais.
Puis là, quand je jouais avec ma cousine, t'sais, moi, je jouais bien, bien plus qu'elle. Ou vice-versa. Il y avait certains, elle avait joué bien, bien plus que moi. Fait que c'était le fun d'échanger des Pokémon. Mais après ça, on disait, oh, on pourrait faire un combat. Puis là, c'était toujours vraiment comme... En anglais, on dit « one-sided ».
Ouais, c'est ça, mais c'est toujours un qui est plus fort parce que c'est lui qui a plus joué. Hein.
C'est ça. T'en as un qui a plus joué, fait que sa team est 10 fois plus forte, fait que t'as juste aucune chance. Fait que c'est plate.
Ça, c'est triste, ouais.
Fait que ça, c'était toujours bien dommage. Fait que ça faisait que le jeu te dit comme « Ouais, tu peux faire des combats contre des amis ». Mais en réalité, pas vraiment, parce que à moins que tu sois...
Mais soit t'es à la fin du jeu, soit t'es rendu au même endroit.
Mais même si t'es à la fin du jeu, tu peux battre le jeu, tes Pokémon sont level 50-60. Si ton ami lui a décidé de monter son Mewtwo niveau 100, ben, ciao back.
Ça dépend comment t'as farmé.
Ou même, en fait, si ton ami a Mewtwo pis toi tu l'as pas, ciao bye. En tout cas, fait que c'était ce qui était dommage. Alors que là, dans Clash Royale, ils ont pris une décision intéressante, c'est qu'ils ont, ce qu'ils appellent le tournament level.
OK.
Fait que quand tu joues contre un ami dans ta guilde, toutes tes cartes sont automatiquement at tournament level. Ils sont boostés à un niveau... Puis ça dépend pour chaque carte, là. Je pense que c'est comme les cartes communes, ça les met niveau 9. Les cartes rares, ça les met genre niveau 6. Les cartes épiques, ça les met genre niveau 3.
Okay.
Puis les cartes légendaires, ça les met niveau 1.
Huh.
Parce que les cartes légendaires sont plus fortes. Fait que ça fait que... Ce que ça fait, c'est que même une carte légendaire est à peu près aussi forte qu'une carte commune. Puis que toutes les cartes, en fait, sont égales. Au niveau du... Quand tu joues tournament level. Je pense que... Fait que ça te permet de faire des friendly battles intéressantes. Je veux dire, si t'as joué, mettons, plus que moi, c'est sûr que toi, tu vas avoir plus de chouettes cartes.
Ouais, ça serait ça, dans le fond.
Mais mes cartes sont pas moins bonnes. Parce que dans Clash, les cartes, ils sont balancées pour être toutes égales au niveau tournoi. Fait que c'est ce que je lisais, là. J'ai écouté aussi le... C'est un des développeurs, un des designers qui était comme, je vais vous expliquer comment que l'économie et le balancing de Clash Royale est fait. Genre, aucune gêne, la plupart des autres studios garderaient ça secret. Lui, il était comme, je vais tout vous expliquer en détail. Voici des chiffres, voici bang, 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 comment ça marche. C'est ça. Okay. Les autres, ils balancent toutes les cartes pour être égales au nouveau tournoi. Puis après ça, quand toi, tu la débloques, ben, tu la débloques niveau 1. Fait qu'il faut que tu en aies plusieurs copies pour pouvoir l'augmenter. Mais tout le monde est égal.
Oh, ça va être le fun, ça.
Puis ils ont rajouté, je les ai pas encore débloqués, là, parce que je suis pas encore niveau 8, mais il y a des tournois que tu peux t'inscrire dedans, puis gagner des cartes. Puis ça, c'est la même chose. C'est tout le monde joue au même niveau. Ils ont juste plus de choix.
Mais c'est le fun parce que ça fait en sorte que la personne qui vient de commencer, elle n'a pas l'impression qu'il faut qu'elle rattrape le reste du monde. Puis que c'est juste ça coupe ton envie de jouer un peu parce que tu sais que tu vas avoir du gros travail à faire pour rattraper tout le monde.
Ben, y a c'est quand décourageant. Même... Ouais, non, c'est sûr. Il y a quand même ça dans le mode principal. Parce que dans le mode principal, tes cartes sont au niveau de
tes... au niveau qu'ils sont. Okay.
Mais le matchmaking va te matcher avec des gens qui ont le même nombre de trophées que toi.
Mm-hmm.
Si tu viens... Si... Genre... Si t'as boosté beaucoup tes cartes, oui, tu vas peut-être gagner un petit peu à court terme, mais rapidement, le matchmaking... Ton nombre de trophées va augmenter. Puis donc, le matchmaking va te matcher avec des gens qui ont le même nombre de trophées. Donc, soit qui ont des cartes aussi boostées que les tiennes, ou... ils sont peut-être meilleurs, ils ont peut-être plus de skills au jeu.
Mm-hmm.
Ce que j'ai commencé à comprendre, là, c'est pas juste de tu mets des cartes n'importe où, n'importe comment. Genre, à force de jouer, j'ai commencé à avoir des stratégies. Puis à un moment donné, par hasard, YouTube m'a proposé une vidéo, genre, des stratégies avec la carte de petit squelette poche. J'étais là comme, ah ouais, il y a de quoi à faire avec cette carte de petit squelette poche là. Puis il est comme, genre, c'est la meilleure carte du jeu. Puis j'étais là, what? Il dit « Ouais! » Là, il t'explique tout. Il dit « Check, le rapport, elle coûte juste un de mana, puis elle a juste quatre squelettes poches, mais check comment ils font quand même beaucoup de damage par point de mana dépensé. C'est comme 50 damage par point de mana. Waouh, c'est beaucoup! » Puis après, il dit « Ok, voici des stratégies. Si ton ennemi, il a genre l'espèce de magicien fucking gossant, parce qu'il démolit toutes mes cartes, il dit, tu mets le squelette direct dessus, comme ça, ils vont l'encercler. Fait que là, il va tirer chaque squelette individuellement, mais tes squelettes vont le péter tout de suite. Puis j'étais genre, oh ouais, on peut faire ça! Ou il disait, genre, ton adversaire il utilise l'espèce de carte que je pense que c'est le prince, qui est comme sur un cheval, puis qui dash, puis qui fonce dans tes tours, puis qui leur fait full de damage. Il dit, tu mets tes petits squelettes au milieu de la map, puis là, ça va le distraire, puis là, il va courir après. Il va faire son dash sur un petit squelette de merde. Le petit squelette va mourir, mais tu t'en fous, tu viens d'éviter tout son gros burst damage. Puis pendant ce temps-là, tes turrets, ils font piou piou, puis là, il meurt. Je dis, quoi? On peut faire ça? Fait que. Découvrir tout ça m'a redonné. Wow. Un intérêt pour ce jeu-là.
C'est vrai de ça qu'il voulait. Il a gagné.
Mais je... Sûrement.
Mais tu veux-tu parler... Ah, excuse.
Nous, on regarde ça parce qu'à job, Clash Royale, en termes de balancing, c'est génial.
Ouais, c'est un success story.
On regarde vraiment beaucoup comment l'économie fonctionne. Tu sais... Ils ont des chests de différentes sortes, puis là, c'est comme, pourquoi il y a des free chests? Pourquoi il y a les crown chests? Pourquoi que des fois, t'as des chests ordinaires, mais des fois, t'en as des gold, puis des fois, des magical? Pourquoi tu peux juste acheter tel type de chest avec d'argent, puis pas tel autre type? Il y a toutes des raisons, là, vraiment importantes pour ça. Fait que c'était vraiment cool. S'il y en a qui que ça intéresse d'apprendre comment ça fonctionne. Moi, je l'ai écouté. C'est un talk de. C'est une présentation du GDC de cette année, je pense. Fait que chercher. Je pense qu'il, je suis pas mal sûr qu'il est sur YouTube. Ou sinon, il est sur le site de GDC Vault. Fait que chercher genre Clash Royale Balancing Talk. Puis vous allez, devriez le trouver facilement.
Ça doit être full intéressant.
Ben, je me, ça, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais moi je trouvais ça pas mal intéressant. Genre, comment tu fais pour balancer un jeu? Puis j'imagine que Blizzard, c'est un peu ça qu'ils font aussi.
Mm-hmm.
Ils, quand ils sortent un héros, tu veux qu'il soit balancé, tu veux pas qu'il soit. Tu veux pas qu'il soit trop fort, sinon. Parce que si tu sors toujours que le nouveau héros il est plus fort que tout le monde, pour en te disant ah ben, hein, ça va forcer les gens à acheter le nouveau héros. Mais non, ouais. Les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont faire fuck this game, puis ils vont te désinstaller, puis ils vont arrêter de jouer.
Mm-hmm.
Si tu veux que ton jeu soit perçu par la communauté comme étant compétitif, ben, t'as des croûtes à manger. Qu'est-ce que t'allais dire?
Ah, j'allais dire, parlant de c'est juste ça leur plan de te faire acheter plus d'affaires, ça t'entends-tu de parler de l'article que t'as lu aujourd'hui?
Ouais! Je pense que ça fait le tour des jeux qu'on a joués, peut-être.
Ah, moi j'en ai d'autres, mais on peut plugger
ça. On avait d'autres. Bon.
Pas le stress. Non, non, on va y aller.
Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de sujet du jour ou sujet de la semaine.
Ouais, c'est vrai.
Parce qu'on a toujours trop de jeux à parler. Mais là, on a un peu de temps, puis on a un bon sujet. C'est quelque chose que j'ai lu tantôt. Pendant que mon ordi installait Visual Studio pendant une heure et demie à oh job. Boy. Alors, je gossais sur mon téléphone, puis quelqu'un qui a partagé ça sur Facebook à propos de Valve et de Steam. Et c'est un texte qui était éditorial, donc c'est un texte d'opinion d'une personne qui a été publié sur Polygon. Puis que Polygon, ils ont mis un gros disclaimer en haut, genre... L'opinion de ce texte est uniquement celle de son auteur et nous, on a juste fait le on l'a juste publié. Ça veut pas dire qu'on est d'accord. Bon.
Ah là là.
Soit d'accord, est-ce qu'ils sont d'accord ou pas, on s'en fout pas mal. Le texte est assez virulent ou accusateur ou...
Ouais. J'ai pas fini de le lire.
Négatif envers Valve. Puis je lisais ça, puis j'étais comme... Ouais, en fait, c'est tout vrai. Genre, on attend... Tu sais, l'article commence en disant, genre, OK, on le sait, Valve a une super bonne réputation auprès des gamers. Ça, on peut pas leur enlever ça. Ils, ont...
mm-hmm.
ils font des choses... ils font certaines choses vraiment bien. Et les joueurs aiment beaucoup ça. Il apprécie et donc c'est cool. Mais à cause de ça, on a tendance à avoir comme des lunettes roses quand on parle de Valve, quand on entend parler de Valve.
Ouais.
Puis genre, tu sais, de temps en temps, Valve y annonce un truc, puis là on fait tout comme ok, pas sûr, ça c'est bizarre. Mais là l'article comme mettait tout ça ensemble. Puis là, tu fais comme, oh shit, en fait, c'est, tu sais, en fait, c'est une compagnie qui est là pour faire de l'argent, comme toutes les autres compagnies qui sont là pour faire de l'argent. Puis qui, ils ont un monopole, puis ils s'assurent que tu ne quittes jamais ce monopole-là. Facebook est un bon exemple. Facebook, il s'arrange pour que tout soit sur Facebook, pour que tu n'aies jamais à sortir de Facebook.
Ouais.
Pour être sûr que tu reviennes sur Facebook.
Ça, toutes les vidéos sont de Facebook sur Facebook.
Et ils ont tes amis, et ils ont tes informations, et ils utilisent ça. Puis là, tout le monde, on est comme, « Ah, je suis sur Facebook, mais Facebook, bleh, c'est « evil ». Mais je l'utilise pareil parce que c'est pas trop pire. Mais t'entends jamais ça, ce genre d'opinion-là, à propos de Valve.
Non, y a pas personne tout le monde qui dit tellement...
genre, oh, j'utilise Steam juste parce que je suis obligé, parce que mes amis sont sur Steam, fait que je suis obligé. Ou, on n'entend jamais ça. Puis c'est ça que
le monde n'est pas critique.
C'est ça.
Steam.
Et là, l'article commence avec des chiffres, des analyses, de l'historique, comment, d'où ça a commencé, comment Valve ont réussi à grossir puis à installer leur monopole comme ça, mm-hmm. puis comment, genre, tu sais, on n'en entend pas parler beaucoup. Tu sais, Facebook, on en entend tout le temps parler dans les médias. Ah, Facebook a fait une acquisition, annoncé des millions de dollars. Puis là, on voit des gros chiffres. Puis on fait, ah, Facebook, c'est des capitalistes qui brassent des millions de dollars.
On Valve, le sait que c'est une méga grosse corpo. Hein.
Yeah. Valve, pour autant que je sache, n'est pas en bourse parce que Valve s'auto-possède, si on peut dire.
Ça se peut.
Genre, Valve, tu peux pas acheter des actions de Valve, à ma connaissance.
Ça appartient aux gens qui en font partie, c'est ça?
Ça appartient aux fondateurs, genre, encore.
OK.
Et donc, on n'a jamais vraiment d'idée de combien qu'il y a d'argent dans Valve. On n'a jamais de chiffres. Ils sont pas obligés de publier des états financiers parce que, justement, ils ont pas d'actionnaires. Fait que c'est ça, on a pas de chiffres et donc les médias en parlent jamais.
Mm-hmm.
Mais l'article a sorti une analyse qui datait de 2015 qui disait qu'une estimation très raisonnable, qui est donc probablement très en dessous de la valeur de Valve, serait estimée à environ 3 milliards de dollars ou plus.
Aïe, aïe.
3 milliards de dollars. Ça, c'est la compagnie qui a de l'air cool puis qui invite les gens à « Ah, oh, faites des mods puis des DLC pour nous. On va les mettre dans notre store. On va pas vraiment vous payer. Si on vous paye, on va vous payer juste 25% puis on va garder le reste.
Ouais. »
Ça veut dire que tu fais un skin pour un gun de... je sais pas moi, Counter-Strike, tu le vends 10$, tu reçois juste 2,50$.
Genre, ouais.
Valve se garde 7,50$ dans leur poche parce qu'ils peuvent, parce qu'ils ont fait le jeu. Puis là, récemment, genre le mois passé, ils ont annoncé que cette marge-là de 25% descendait à genre 5 ou 10%.
Et boy!
Fait que ça veut dire que t'achètes le gun 10$, il y a 1$ qui va au dev, puis 9$ qui va à Steam.
Mm-hmm.
Ils ont sorti aussi des chiffres du dernier tournoi de Dota. Ça a l'air que tu pouvais acheter un espèce de billet virtuel, puis essentiellement donner de l'argent pour mettre dans la cagnotte
du
tournoi.
Fait que le gagné allait recevoir, genre.
C'est ça. L'équipe gagnante ou les gagnants allaient se partager une grosse cagnotte, puis ben, tu te sens bon, tu te sens gentil en tant que joueur. Tu fais « Ah, oh, je vais encourager le e-sport, les jeux que j'aime, je vais mettre de l'argent dans la cagnotte. » Ben, en petit caractère, Valve se garde 75% de la cagnotte, de l'argent récolté. La cagnotte... En 2016, dans le tournoi, s'élevait à 20 millions de dollars. Fais le calcul, ça veut dire que Valve a empoché 60 millions par ce tournoi-là.
On va-tu l'avoir à Half-Life 3? Pff,
oublie ça. Ils ont déjà annoncé qu'ils ne travaillaient plus dessus.
Ah oui,
pour eux? Ils ont déjà annoncé que s'il n'y a pas moyen de le monétiser avec des millions de dollars comme ça, puis de... Genre, t'as aucune...
Oh my god.
Ils avaient dit, quand ils ont sorti Portal 2, ils ont dit c'est le dernier jeu single player qu'on fait.
Ah ouais?
Ouais.
Ça déprimant. Fait,
maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils font Counter-Strike, Dota... Puis
ouais, quoi d'autre? Parce que Team Fortress, il touche même plus.
Team Fortress, il touche plus. C'est que des mods de la communauté.
Ouais.
Puis Valve se garde 75% à 90% des revenus. Ils ont annoncé récemment que tu peux maintenant, je pense... Moi, je ne l'ai jamais vraiment utilisé parce que j'achète pas des mods comme ça, mais ils ont annoncé que tu peux revendre des mods. Fait que, mettons, t'achètes un skin d'un gun de quelqu'un. Fait que là, Valve leur a donné la pièce, puis ils s'en sont gardés 9 pièces. Puis là, après ça, ce qu'ils ont fait récemment, c'est qu'ils ont débloqué que tu peux maintenant l'échanger ou le vendre. Fait que moi, mettons, j'ai acheté un skin de gun, je pourrais te le vendre à toi.
OK.
Puis, évidemment, Valve se garde une cote. Eh bien, la cote est pas mal élevée. Ils ont promis, ils ont dit, ah oui, on va, à ceux qui ont fait le skin d'origine, on va leur donner une cote à eux aussi. Ça fait 6 mois, puis les modeurs demandent encore à Valve, quand est-ce qu'on va avoir notre cote?
Oh my God.
Puis Valve répond pas. Ils ont aussi, l'article parlait aussi, ben pas l'article, c'est vraiment un texte d'opinion, là. Mm-hmm. Mentionner aussi toutes les démarches légales que Valve sont en train d'utiliser pour ne pas devoir suivre certaines règles et lois dans certains pays.
Ah ouais.
Notamment toute la question des remboursements, là, c'était la grosse affaire là, quand ils ont commencé à offrir des remboursements. Ils ont tout fait pour pas être obligés de faire ça.
Mm-hmm.
Puis si tu lis les terms and conditions, là, c'est le truc que personne lit, ils l'ont écrit d'une manière genre quasiment là, limite comme normalement on n'est pas obligé de donner des remboursements, mais parce qu'on est fin, on vous a... Mais tu sais, genre non.
C'est peut-être pour se réserver le droit de refuser aussi. Hein?
Exactement, oui. Tu sais, ben, puis ils ont mis des règles, parce qu'effectivement, il y a des joueurs qui abusent du système, puis qui, essentiellement, tu sais, surtout pour les petits jeux,
oui,
ils installent le jeu, ils essaient de le finir le plus vite possible, puis ils lui demandent un remboursement pour comme avoir joué gratuit.
Ouais.
Ben, OK, ça, c'est poche. Puis j'imagine que si t'es un... Si t'es Valve, tu devrais comme comparer la durée moyenne des joueurs versus combien le temps que la personne qui demande de rembourser. Tu sais, il y a plein de choses que tu peux faire, mais le Valve, c'est comme non, on veut pas donner de remboursement. Puis l'article disait, ben, le texte disait, c'est drôle, hein? Ils ont dépensé des millions et des millions et des centaines de millions de dollars en frais légaux d'avocats. Juste pour pas te rembourser 15$. Puis, en tout cas, au final, il compare beaucoup ça à toutes les entreprises récentes, genre Uber.
Ouais, j'ai vu qu'ils s'avançaient là-dedans.
Les Lyft, puis Airbnb, puis toutes ces affaires-là qui sont comme pas vraiment légales, mais la compagnie fait de l'argent, puis... Puis ils ont beaucoup de contrôle, puis tu sais, Uber, ils payent les employés, mais c'est pas des employés. Non. Fait que là, ça tombe dans une espèce c'est de sous-catégorie qui n'ont pas besoin de payer d'impôts, puis tu sais. Puis Valve, essentiellement, c'est la même chose, là. C'est comme, tu travailles pas pour Valve, t'es un modeur, t'es un bénévole. On te donne une compensation, on te donne un cadeau, mais c'est pas un salaire. Puis, oh my God! Fait que l'article est, en tout cas, le texte est pas mal cool. Le titre complet, je vais essayer de l'ouvrir. Le titre complet de l'article, c'est « Valve is not your friend and Steam is not healthy for gaming ».
L'article est assez long aussi, là.
Et le sous-titre, c'est « The illusion behind the good guy Valve reputation ». Mm-hmm. C'est ça, c'est Valve, c'est comme, oh, mais Valve sont intouchables, c'est des bons gars, ils sont fins.
Mais ils ont
Valve
tellement une belle réputation.
Tu sais, quand tu regardes Origin, quand c'est sorti, tout le monde bitches, Origin, bleh, je veux pas installer un autre logiciel. C'est la même chose.
C'est des grosses corpos. Wow.
C'est EA qui l'ont fait. Oh, EA, c'est gros capitaliste sale.
Ouais.
Puis. Puis genre,
la face, c'est que c'est mauvais pour la concurrence, Steam.
Ben, exactement. Fait que... Mais le problème, c'est que tout ce genre de grosses affaires-là, la seule manière de briser ça, c'est de faire comme ce qui est arrivé à Microsoft dans les années 90, là. C'est en Europe, le gouvernement européen qui a dit genre, non, ça suffit, le monopole, c'est fini. Puis là, ils ont comme brisé Microsoft en plusieurs entités. Je sais pas à quel point il y a eu beaucoup de succès là-dedans.
Ouais, je sais pas trop ça.
Mais tu sais, c'était au moins un effort dans cette direction-là. Puis,
c'est briser le monopole.
Tu sais, j'ai l'impression qu'en Europe, ils sont peut-être plus critiques aussi. Là, genre, les gens sont...
Ouais, tu penses?
C'est peut-être juste une illusion parce qu'on n'habite pas là, puis on le sait pas, là, mais...
C'est un peu... Peut-être que ce serait plus dans leur nature, justement, d'avoir un œil critique sur...
Comme si les consommateurs étaient un peu plus critiques puis un peu plus réticents avant de donner leur argent à une grosse compagnie américaine.
J'ai entendu que nous autres, on a élevé Valve au statut de, genre...
De divinité.
Compagnie qui est bienfaitrice, puis qui nous permet de modder comme on veut, puis...
Puis t'imagines-tu? T'sais, on a toute notre librairie là-dedans, là.
Ah, c'est fou, là! Moi, ça fait peur, à un moment donné.
Que tu veux plus être sur Steam, c'est comme, ouais, mais ma librairie, je fais quoi, là?
Tout est là-dessus.
Quand tu veux... aussi...
En tout cas, pour moi, tout est là-dessus.
Ben, c'est ça. On est content. On achète sur un autre site, puis on est... Ah, oh, il y a une clé Steam. Ah, oh, parfait.
Parce que c'est pratique. Dans le fond, ils ont réussi à être l'option la plus facile puis pratique. Fait qu'après ça, ben, tu te casses pas la tête, tu cherches pas ailleurs quand tout est beaucoup plus facile et pratique sur Steam, tu sais. Fait que là, ils ont un monopole, puis ben, c'est ça. T'sais, c'est fou à quel point, mettons, justement, pour des jeux indie, là, Steam, être sur Steam ou ne pas être sur Steam, ça peut déterminer complètement ta popularité, là. Yep, c'est moins pire à ce temps parce qu'ils acceptent plus de choses, là, mais il fut un moment où Steam, c'est un peu plus une chasse gardée d'être dessus, puis c'est ça.
Mais même tu sais, j'entends beaucoup de devs indie qui sont pas encore sur Steam, surtout peut-être voilà une couple d'années, j'imagine que c'est quand même encore vrai. Les joueurs leur disent « Ah, si ton jeu est pas sur Steam, je vais pas l'acheter. »
Je veux pas le downloader, là, toutes mes affaires sont à la même place.
Parce que je veux pas, comme, dealer avec ça, je veux que ça marche tout seul, comme sur Steam.
Parce que Steam, c'est bien trop pratique. Ils gèrent toute l'installation,
Puis, ouais.
C'est pas tout le temps bien optimisé, par exemple.
Moi, j'ai l'impression d'être le seul à critiquer ça, là, mais moi, c'est l'interface, là. Steam, ça a pas beaucoup évolué niveau graphique. Interface. C'est tous les mêmes petits boutons clunky, compliqués.
Il y a du travail à faire.
C'est laid. Le login est ultra compliqué pour rien. Genre, comment qu'il te demande les codes qu'il t'envoie par email? C'est tout le temps
compliqué. Ah, ben ça, Battle.net pis tout, c'est pas mieux, par exemple.
Oh, quand même. Battle.net, c'est à des années-lumière en termes de clarté d'interface.
Hein? T'as pas pogné d'avoir un authenticateur sur ton téléphone, puis c'est parce que t'es pas encore fait hacker.
Je l'utilise, celui de Battle.net, okay. Puis celui de Battle.net, il est très plaisant à utiliser, parce que,
genre,
j'ouvre Battle.net, il dit, je rentre mon mot de passe, tout, et là, il me dit, ah, l'authentification à deux facteurs, alors on... Là, mon téléphone vibre, il y a une notification. Je clique sur la notification, ça dit « Voulez-vous accepter? » J'accepte.
Ah, oh, à cette heure, il ne te fait plus rentrer un code bizarre?
Il ne te fait plus rentrer un code bizarre, non.
Ah, OK. Ça, c'est cool, là.
Ça fait parce juste sur ton téléphone. Puis tu vois, il t'affiche des lettres pour que tu saches ce que tu es en train d'approuver. Genre,
ouais.
Je suis en train d'approuver cet ordinateur-là qui est devant moi. Je vois je confirme que c'est le même. Il te dit, genre, la demande provient de Montréal. Fait que tu fais comme, oh, parfait, c'est okay. Moi. Si c'était, genre... Ça m'est-tu déjà arrivé? Genre...
Je me suis déjà fait hacker plusieurs fois, ça marche pas.
C'était genre, nous avons eu une tentative de connexion à votre compte, puis là, c'était comme en Chine. J'étais comme, non, c'était pas moi.
Ah, c'est poche, ça.
Steam, ils on pourraient faire de la grosse job d'amélioration du UI, puis au lieu de ça, ils ont le monopole, fait qu'ils s'assoient sur leur laurier, puis ils savent qu'on n'a pas le choix, puis qu'on va acheter chez eux pareil.
Mais faudrait peut-être commencer à songer à justement briser le monopole, puis essayer d'avoir plus de sources, parce qu'on sait jamais si ça marche plus du jour au lendemain, tous nos jeux vont être bloqués. Donc, si on veut pas perdre notre librairie, peut-être falloir commencer à y penser.
Itch.io, c'est pas mal cool. J'en parle souvent. Puis Itch.io, tu peux toujours downloader le... C'est sûr que c'est plus de troubles, mais tu peux, si tu veux, downloader directement un zip avec ton jeu. Il n'y a pas de DRM. C'est sûr que c'est bien plus pratique d'utiliser l'application. Puis même l'application, quand tu downloads un jeu, essentiellement, il y a juste downloadé des fichiers. Il n'y a pas... Puis tu pourrais pogner les fichiers, les copier ailleurs, puis si l'application marche plus, ton jeu existe encore sur ton disque dur.
Tandis que Steam, c'est vraiment nébuleux, là. Je sais pas si tu peux avoir accès à tout, là, mais moi, j'ai vraiment l'impression que c'est une boîte noire, puis on sait pas qu'est-ce qui se passe, là, quand les jeux sont installés sur Steam, où sont nos fichiers, puis qu'est-ce qu'on a besoin, est-ce qu'on pourrait rouler ça sans Steam, puis non, en fait, la réponse est non.
Il y a quelques très rares exceptions, mais essentiellement, la réponse est non. Fait que c'est à réfléchir, je trouve.
Ah oui, oui, oui. C'est du food for thought, comme on dit.
Cherchez ça sur Google pour lire l'article complet. Il y a plusieurs autres aspects que j'ai pas mentionnés ici, là. Notamment au sujet des Steam Sales et tout ça. Qui est un autre sujet, tu sais. Oh, tout le monde est comme, oh, les Steam Sales, yeah!
Ben oui!
Puis ça. Ah, oh, Steam, ils sont donc ben fins, ils ont des Steam Sales.
Ils vendent les jeux pour des peanuts.
Ouais.
C'est mieux de les prendre à ce moment-là. Okay. Ouais.
Enfin.
Je suis plus Humble Bundle, là. Ces temps-ci.
Sinon, moi j'ai comme passé à travers ma liste.
Ah, moi j'avais une couple de petites affaires.
Je pense qu'on va finir là-dessus. Hey, on pourrait finir un peu plus tôt.
J'ai joué à Refunct. Je sais pas si t'as-tu entendu parler de ça?
Non.
C'est un petit jeu indie qu'il y a sur Steam. C'est pas très très cher. C'est peut-être même gratuit en fait. Non, c'est 2 piastres. Ouais. Puis c'est juste le fun. Ah, c'est 3 piastres en temps normal. Okay.
Si tu l'achètes et que tu l'aimes pas, can you ask for a refunk?
Probablement. Fait que ça doit leur faire mal un peu. Mais c'est juste un platformer que tu t'es comme sur des petits îlots en plein milieu de l'eau, puis il faut que tu sautes, puis ça se fait rapidement, tu passes à travers rapidement, mais c'est un jeu que j'ai découvert en fait à cause d'un concours de speedrun qui s'appelle le Décathlon, puis qui est basé en France, mais n'importe qui peut participer, puis c'était dans un de leurs jeux à un moment donné. Puis, je pense que l'intérêt du speedrun, c'est ça, c'est qu'il faut toujours que tu te rendes à un nouveau point, puis là, il faut que tu plateformes jusqu'à un nouveau point, un nouveau point, un nouveau point. Ce sont des petits objectifs qui apparaissent sur les plateformes. Puis, c'est que tu peux... C'est comme un petit terrain de jeu, fait que tu peux tout le temps essayer de... Tu peux rejouer, puis juste essayer d'y aller plus vite. Puis atteindre le plus de choses possible plus vite. Il y en a des cachés, il y a des nouveaux parcours que tu peux essayer de trouver dépendamment à quel point de ton habileté. Puis c'est le genre de jeu zen que c'est juste comme de l'exploration. Il y a rien d'autre. Il y a que tout ce que tu fais, c'est te promener, puis attraper tous les petits cubes, puis attraper tous les objectifs. Mais je suis sûre que... Ouais, c'est ça, je suis sûre que l'optimiser, genre ton trajet pour être capable d'atteindre toutes les choses le plus vite possible, je suis sûre que ça doit être super le fun pour le monde qui aime ça, justement, les speedruns, puis genre être capable d'optimiser ton trajet le mieux possible.
Attends, mais c'est un first-person platformer?
Ouais!
Ça marche, parce que des platformers first-person, j'ai jamais de réel facile.
Non, c'est pas facile, mais c'est
Semblait que
vraiment
t'aimais pas
une
ça,
exploration.
Warhammer.
Non, j'aime pas ça tant que ça, mais je trouve que je vois l'intérêt. Je vois pourquoi, genre, pourquoi ce jeu-là a été mis dans un concours de speedrun.
Ah,
Je
ok,
trouve ça
ouais,
fun
non,
parce que
ça.
c'est vraiment, c'est épuré, c'est simple, c'est efficace, c'est droit au but, genre. Fait que, non, j'ai juste trouvé que c'était chouette. C'est une belle idée, c'est pas cher. Ça vous tente d'avoir quelque chose pour vous casser les dents un peu sur l'optimisation de platforming en première personne.
Au
Refunct,
début,
c'est pas mal le fun.
j'avais pas compris que c'était en 3D quand t'en parlais.
Ouais.
Ta description fitait exactement. Bon, évidemment, j'ai un blanc de mémoire. C'était un jeu, c'était en 2D. Tu étais un espèce de concierge qui ramassait des feuilles dans des plateformes.
OK.
Ah! Comment ça s'appelait? J'écoute la soundtrack tout le temps. Parce qu'elle est justement trop bonne. Attends une minute.
Tu ramasses des feuilles.
Ah, je me souviens plus du nom de la soundtrack que du nom de l'album. De la soundtrack que du nom du jeu. C'est
Ah,
Dust Force. Merci Google.
OK,
Dust
ça me dit absolument
Force.
rien.
C'est un platformer. C'est comme tu dis, là. C'est des tableaux très courts où tu dois juste naviguer puis ramasser toutes les feuilles. Puis après ça, c'est que tu veux. T'sais, finir le tableau, c'est juste la moitié du jeu. Après ça, tu
OK.
veux optimiser ton temps
Oui, c'est
puis
ça.
faire le tableau vite. Puis
C'est un bon
ramasser toutes les
principe.
feuilles rapidement. Avec une musique là, ambiante, soft mellow, comme la soundtrack de Fez, mais avec un peu plus de beat.
Ah.
Oh man, c'est bon! C'est bon! La soundtrack. Le jeu, c'était un peu. Ça devenait. D'un côté, c'est pas nécessairement plus dur, c'est juste que là, mon côté compulsif optimisateur devenait complètement fou. Dans le sens que je recommençais le tableau, je le recommençais, recommençais, recommençais. Puis
Okay.
tu sais, c'est comme Super Meat Boy, là, tu pèses un piton, puis c'est comme, ah ouais, go, on
Ah,
recommence, on recommence,
okay.
on recommence.
Ça
Puis
roule.
il faut que tu fasses les parcours parfaits. Parce que, tu sais, toutes les feuilles sont alignées là, pour faire un beau parcours parfait. Puis là, tu fais comme, oh man, si seulement j'étais capable de le faire parfait. Puis là, tu sais, comme. Puis tu sais, quand tu le fais parfait, tu gagnes de la vitesse supplémentaire, ce qui t'aide à aller plus vite. Puis là, il y a comme plein de petits. Tu peux regarder les replays des gens du leaderboard de chaque tableau pour voir comment ils font pour faire le tableau en la moitié du temps que ça t'a pris. Puis là, tu fais comme, oh my god, on peut faire ça. Puis là, tu dashes, puis là, tu tombes pour utiliser la rampe qui va te donner un petit peu de speed boost. Puis là, tu es comme, oh ouais, c'est bon. Ça fait un peu Sonic aussi, d'une certaine manière. Ou Super Meat Boy. Comme si Super Meat Boy puis Sonic avaient fusionné ensemble, puis avaient mis de
C'est
la
bien
musique
drôle.
de Fez ou de Boards of Canada. Et c'était pas pire, bon, ce jeu-là. Mais c'est en 2D. Alors que toi, est-ce que tu nous parlais? Refunk.
Ouais, fait que c'est plein de wall jump, là. C'est plein de sauter partout à gauche puis
Ah,
à
c'est
droite.
ça. C'est ça.
Ouais, mais c'est zen parce que c'est tellement épuré. Tu sais, il y a comme rien d'autre au jeu, là. Tu fais pas ça pour une raison, tu collectes pas des affaires, il y a pas de méchants, il y a pas de monstres, c'est juste ça, genre focusé sur les plateformes. Puis...
Mais comment tu fais pour faire des wall jump first person?
Ah, moi je trouve ça tellement dur.
C'est
C'est ça que
ça,
moi
hein?
j'ai de la misère.
Comme niveau intuitif, c'est un.
Ah ouais, moi je trouve ça super tough, là. Mais moi je suis pas bonne en général pour platformer, t'sais. Fait. Je suis peut-être pas un bon exemple. Mais ça se
Sinon, tu
fait.
joues à Transistor?
Ouais, là, c'est temps si j'ai pas fini encore, mais ah, oh, c'est tellement beau. C'est les gens qui ont fait Bastion, fait que c'est un esthétique complètement unique. C'est un esthétique audio aussi qui est complètement unique, là, donc audio et visuel, c'est raffiné, c'est intéressant, c'est recherché, genre.
Ouais.
C'est vraiment, vraiment chouette. Puis le gameplay est le fun. J'aime bien le...
T'avais-tu fini Bastion?
Oui?
Oh. Moi, j'ai jamais fini, puis... Parce que à chaque fois, je commence, puis là, je me rappelle plus. Fait que là, je recommence du début, puis là, à un moment donné, j'arrête au milieu. Puis, y a-tu des liens entre les deux jeux?
Non, je pense pas, non.
Ah, ok.
Je pense vraiment pas. Là, t'es comme dans une ville un peu futuristique. Je sais pas si c'est le but que ça provoque des réflexions, mais ça provoque un peu des réflexions. C'est comme une ville connectée. Puis tout ce qui se passe dans la. T'as plein de stations avec comme un écran un peu partout dans la ville. Puis on dirait qu'à chaque fois qu'il va se passer de quoi dans la ville, il faut que tous les citoyens. C'est comme si c'était la démocratie, mais poussée à l'extrême. Tout le monde vote sur tout. Là, t'arrives à une station avec l'ordinateur. Fait que tu vas avoir genre une question de genre, hey, ça vous tenterait-il d'avoir un pont entre ce quartier-là puis ce quartier-là? Puis là, le monde peut voter. Quelle température que vous voudriez demain? Parce que c'est une espèce d'utopie un peu science-fiction, là. Puis là, tu peux voter pour quelle température que tu veux demain. Puis la majorité l'emporte. C'est vraiment, on dirait, comme la démocratie poussée au maximum.
Comme en Suisse.
C'est même en Suisse?
Il me semble que c'est en Suisse. Il y a un gars dans un 5 à 7, il y a à peu près un mois ou deux, qui nous a tout expliqué ça. Justement, il y avait son papier qui allait renvoyer par la poste avec toutes
C'est
ses
bien fou.
questions. C'est comme des référendums sur tout.
Oui.
N'importe qui peut proposer n'importe quoi. Puis tant qu'il y a tant de qu'il atteint un certain nombre de signatures, boum, ça devient dans le référendum.
Ah, c'est cool ça. Ouais,
Y a des pour et
fait que
des
c'est ça.
contre.
C'est beau, c'est beau.
Transistor.
Bon, ouais. Mais là, le gameplay est vraiment différent. Moi, le gameplay de Bastion, j'étais pas vraiment bonne. C'est du combat en real time, puis tu peux te faire. Tu fais tout le temps. Tu sais, quand il te tape, tu revoles, puis tu peux tomber en bas des plateformes, là. Fait que j'étais souvent pognée à tomber en bas des plateformes. Parce que moi, s'il y a des plateformes qu'on peut tomber en bas, c'est sûr que je vais tomber en bas. C'est important. Mais là, c'est du tour par tour. Puis il y a toute une thématique programmation. Donc, toutes tes fonctions, toutes tes habiletés, c'est des fonctions, puis ils ont un nom qui finit avec des parenthèses. Puis à chaque fois que tu commences ton turn, tu commences le turn, parenthèse.
C'est
puis tu te bats
turn-based.
contre. Ouais, c'est en tour par tour. Fait que là, t'alignes tes fonctions jusqu'à ce que tu aies assez de mémoire pour faire ton tour. Puis quand ta mémoire est pleine, ben là, tu joues ton tour. Puis là, t'attends que ta mémoire revienne. Genre, la quantité d'habiletés que tu peux équiper en ce moment, je pense que ça s'appelle ton cache.
Lol.
Oui, il y a plein de petites. T'as des niveaux d'encryption, puis tu peux appliquer genre une upgrade sur tes fonctions qui sont d'autres fonctions que tu utilises.
Là, ça fait des fonctions récursives.
Genre, je sais pas. Mais tout a des beaux petits noms, genre. Il y a vraiment une belle petite thématique programmation, là, que moi, je connais pas ça, fait que genre, ça m'intéresse pas, puis je trouve ça cool, là. Quelqu'un qui s'y connaît va peut-être faire genre.
Mais non.
Fait que tu te bats contre un peu des robots là, qui sont un peu. Ça s'appelle The Process. Donc le procédé, mais il est rendu wild, il fonctionne par sa propre volonté, puis il n'y a plus personne qui a le contrôle dessus. Fait que c'est un peu compliqué parce que là, les agents du process t'attaquent. Fait que c'est contre eux autres que tu te bats, c'est comme si c'était des fonctions. Ouais, c'est ça, c'est en tour par tour. Puis je sais pas, genre, t'as un truc pour purger, puis là, la fonction, elle se purge, puis pendant ce temps-là, elle pogne du dégât, puis elle est pas capable d'agir, mettons. Oh, il y a plein de vocabulaire comme ça qui fait référence à la programmation et tout. C'est
C'est-tu
vraiment
le
bon.
jeu là que genre elle a une épée qui parle ou quelque chose comme ça?
Oui, dans le
Puis
fond,
elle parle pas?
c'est ça, le personnage principal s'est fait voler sa voix, mais à date, j'ai pas fini. Fait que, en tout cas, je sais pas comment ça se fait qu'elle s'est fait voler sa voix. Mais elle a une épée, puis c'est ça, l'épée parle. Donc, c'est encore un peu comme Bastion, que tu as tout le temps un narrateur. Tu as tout le temps quelqu'un qui parle dans tes oreilles. Mais là, c'est l'épée qui est avec toi, qui parle. Fait que c'est super intéressant. Fait que c'est une autre interaction. T'sais, dans Bastion, c'est vrai, tu le rencontrais dans Bastion, le gars qui te parle tout le temps, mais il est comme tout le temps là. Je ne sais pas pourquoi il peut tout le temps comme te parler, là. C'est pas vraiment expliqué, là. Mais là, l'épée est vraiment réellement avec toi, là. Il fait des commentaires sur ce qui se passe. Puis,
Oh, man.
Il réagit en fonction. Là. Fait que c'est intéressant.
Il est tout le temps proche. Puis à chaque fois, je me dis, non, non, là, il faut que je finisse Bastion avant. Peut-être que je devrais juste...
Mais je trouve que c'est un peu optimisé sur... Ben, moi, le combat de Bastion, je l'ai pas aimé tant que ça. Parce que je l'ai trouvé difficile, puis je tombais tout le temps en bas. Puis en plus, non seulement je tombais en bas des plateformes, parce que tu peux tomber en bas, mais en plus, les plateformes se défont à la longue. Là. Il y a des monstres qui sont capables de créer des trucs dedans. Fait que là, t'as encore plus de chances de tomber en bas de quelque chose. Mais là, c'est en tour par tour, pis t'as plus la chance d'optimiser, t'es plusieurs styles de jeu. Ben, il y a déjà plusieurs styles de jeu que tu pouvais avoir. Tu vois qu'il y a des idées qui ont gardé, là, de Bastion. Et dans Bastion, tu pouvais choisir des choses qui allaient te rendre le jeu plus difficile, mais t'as donné plus d'XP ou plus d'argent ou des choses comme ça. Ben là, c'est pareil. Tu peux ajouter des choses qui vont te rendre la vie plus difficile, mais ça te donne plus d'XP. Donc, tu peux toi-même, même s'il y a un seul niveau de difficulté au jeu, ben toi-même, t'ajustes le jeu pour que ça reste vraiment un défi pour toi. Là. Ça, c'est toujours vraiment intéressant. Tu as toujours une base où tu peux revenir tout le temps. Puis, il y a des défis que tu peux faire dans cette base-là. Genre, il y a des défis de vitesse. Mettons, ils te placent en plein milieu d'une arène, ils te spawnent un nombre précis de monstres. Puis là, ils disent... Là, ils te donnent des habiletés spéciales. C'est pas tes habiletés à toi. Là. Ils t'en sélectionnent quelques-unes. Puis, il faut que tu finisses ça en un tour. Fait que là, il faut que tu planifies vraiment, puis là, ça devient vraiment un puzzle de genre, OK, il faut que je me déplace, il faut que j'attaque là, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, puis il faut que tu réussisses à wiper tout le monde en un tour. Ouais, il y a plein de petits défis comme ça. Il y a des défis de vitesse, mettons, ils te mettent un paquet de waves de monstres, puis il faut tout que tu pètes en dedans de 60 secondes. Et encore là, tu choisis pas tes habilités, ils t'ont donné des trucs vraiment précis. Puis tu devrais être capable de le réussir si vraiment tu réfléchis, puis tu planifies. Puis... Parce que tu peux jouer. C'est comme en tour par tour, mais tu peux jouer en real time. C'est que dans le fond, ton tour à toi, il recharge. Puis après ça, tu peux faire pause, mettre en queue toutes tes actions jusqu'à ce que tu aies rempli ta mémoire. Puis là, paf, tout s'exécute tout d'un coup. Puis après ça, pendant que ça recharge, ben c'est en temps réel. Là, il t'attaque, puis toi, tu cours partout parce qu'il t'essaie d'éviter les coups. Puis là, quand ta mémoire est rechargée, paf, t'appuies sur pause, puis là, tu planifies, puis t'exécutes toutes tes actions en même temps.
Mais tu peux jouer, je pense, quand même, dans les phases d'action.
Oui, c'est ça. T'as des habiletés que tu peux quand même faire dans la phase d'action, au lieu de juste te sauver. Puis il y a moyen de les upgrader. Sinon, c'est une habilité normale, il y a moyen de l'upgrader pour qu'elle soit utilisable dans la phase d'action. Et tu peux continuer à attaquer, oui. Fait que si vraiment tu trouves ça trop facile, tu pourrais continuer juste jamais être en retour partout puis toujours être dans la phase d'action puis paf paf paf. Mais éventuellement ça devient dur, là, t'es obligé de mettre sur pause puis planifier puis regarder qu'est-ce que tu peux faire.
Puis le jeu te fait pratiquer dans les arènes, fait que
oui, tu peux c'est tout facultatif.
Cool moves.
Ouais, c'est tout facultatif, mais ben, ça t'apprend des fois des nouvelles fonctions puis là après ça t'as des blocs, fait que t'es content d'avoir appris comment ça marchait.
Après ça, tu peux les utiliser. Comme t'as appris...
T'es mettre dans ton cache.
T'as réellement un nouveau skill dans ta tête. Là,
oui, c'est ça.
Tu peux faire comme que je parlais un peu tantôt, là, Clash Royale.
Oui, c'est vraiment du skill.
Une utilisation possible de...
tes habiletés. Fait que c'est beaucoup... Ouais. C'est de la planification, de l'optimisation, mais c'est pas trop dur non plus pour que je m'arrache les dents dessus, là. Fait que, ben c'est sûr, je mets pas beaucoup, j'ai pas mis beaucoup de bâtons dans mes roues non plus. en termes de choses qu'on peut mettre pour avoir plus d'XP, là, j'en ai pas mis tant que ça. Mais c'est juste tellement beau, là, la musique, c'est tellement beau. Visuellement, c'est tellement beau. L'histoire est aussi quand même. L'histoire de Bastion, je trouvais qu'elle était toujours un peu pas claire, là. C'est comme, c'est vraiment flou, genre, qu'est-ce qui se passe dans le monde de Bastion, là. Là, c'est un peu moins flou. Il donne un petit peu plus d'informations. Puis tu sais un peu plus dans quelle direction tu t'en vas, mais l'épée, elle te parle aussi, puis tu sais, elle te dit « Ah ouais, on devrait aller par là, bonne idée, on va aller faire ça. » Ou, tu sais, c'est plus linéaire, je pense, parce que dans Bastion, tu revenais toujours à ton hub central, puis après ça, tu pouvais choisir quelle mission que tu faisais. Tandis dans Transistor, là, tu continues tout le temps. C'est juste que tu continues dans l'histoire linéaire, puis de temps en temps, il y a ce qu'ils appellent une backdoor qui s'ouvre, puis là, tu te retrouves à ton genre de... hub central qui est comme un abri où est-ce que tu peux faire les défis ou tu peux changer la musique, des choses comme ça. Puis après ça, tu reviens, puis c'est ça, c'est quand même une histoire linéaire. Fait que je trouve que l'histoire, elle a un peu plus de direction. On sait plus où est-ce qu'on s'en va, puis je suis plus intéressée, je suis plus accrochée, je veux savoir comment ça va finir. Tandis que Bastion, t'es juste comme... Mais en tout cas, moi, je trouvais que tu rebâtis ton Bastion, et tu fais des missions...
Ouais, il y avait un bon plot twist.
Pas clair. Ouais.
J'étais comme, oh shit, j'aurais pas dû venir ça.
C'est juste que l'histoire est comme tellement des nuages, genre elle est pas comme ancrée sur Terre. Tandis que là, c'est plus comme
littéralement.
Ouais.
Littéralement, t'es dans le nuage.
C'est vrai. L'histoire est littéralement dans le nuage, c'est vrai.
Bon.
Ouais.
Eh bien.
Fait que c'est. Adapte-le, c'est vraiment cœur.
Eh bien, c'est pas mal ce qui termine cette émission de On a juste une vie. Je sais pas si toi t'as un petit mot de la fin. Moi, j'en ai comme. Pas.
Ah, ben c'est correct.
J'essaie de trouver un mot de la fin, pis j'en ai comme pas.
T'es pas obligé tout le temps d'en avoir.
Alors, mon mot de la fin, c'est que dans environ 15 minutes, je risque de jouer à Heroes of the Storm. C'est un. It's a secret for nobody. Comme dirait le petit bonhomme dans Zelda.
Parfait, ça.
Et toi, Anne-Marie, est-ce que t'as un mot de la fin?
Ouf, moi, dans 15 minutes, je vais sûrement être dans mon lit. Je recommence à travailler, puis je suis fatiguée.
Ça, c'est une option aussi. Ça, ce serait l'option raisonnable.
Voilà. Mais je pense que je vais essayer Space Plan pour vrai, parce que ça a l'air bien trop fou, Red.
Yep, moi aussi.
Fait qu'on va en parler. Bientôt, dans un avenir bientôt, dans vos oreilles.
Voilà. Alors, c'est ce qui termine cette émission de On a juste une vie. Si vous avez aimé ça, vous pouvez vous abonner en allant sur onajustunevie.ca. On est aussi, vous pouvez aussi vous abonner sur iTunes et YouTube, qui sont eux aussi des monopoles quand on y pense. Vous pouvez aussi nous suivre sur les Twitter et les Facebook, ce qui est aussi des monopoles. Alors, si vous êtes de nature indépendante et que vous voulez encourager les artisans locaux, vous pouvez aussi nous trouver sur l'entredugeek.net.
Absolument.
Il n'y a pas plus indépendant que ça.
Mm-hmm.
Si vous avez des questions, commentaires, vous pouvez nous écrire info@onajustunevie.ca. Merci yep. Anne-Marie d'avoir été là. C'était le fun. Je pense que c'était une bonne émission ce soir.
Je pense que oui. J'espère.
Et on se retrouve la semaine prochaine parce que on a juste une vie!
Devolver Digital va être au E3. Je suis full contente.
Ils sont tout le temps là.
Pour vrai? Ah, mais ouais. Ils vont faire une press conference,
là. Oh, shit!
Ouais.
Ça va être une des big.
C'est cool!
Intriguant.
Ouais, mais je trouve ça vraiment cool que les press conferences, ça soit pas juste un monopole des grosses, des genre quatre grosses compagnies, là. Ben, il y a Bethesda, mais... Ouais, ça va être cool d'avoir des... D'ailleurs, Devolver Digital, c'est eux autres qui publient Space Plan. Le jeu fucky avec les patates pis le livre. Ouais.
Oh, shit.